Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Majeur Mineur.
Salut, c'est Calvin Davy.
On se retrouve sur Groover.
Pour parler de production.
Et artistique, en tout va.
T'auras des tips à la fin si tu
veux. Un magnifique de choses.
On parlera argent ou pas, les amis?
Argent?
Argent?
Argent? On va parler monnaie, argent, cash, flouze, c'est quoi?
Mais pas que.
Pas que. On va parler musique, quête de sens.
Oh, magnifique.
Salut à tous, c'est Ismaël, bienvenue dans ce nouvel épisode de Groover Chips. Alors aujourd'hui on parle instru et beatmaking, puisqu'on vit à une époque incroyable où il est possible de devenir numéro 1 du Billboard en achetant un MP3 à $200 sur internet. C'était le cas du tube Panda de Designer, sachez-le. On peut aussi citer A$AP Rocky qui fait des tubes en tapant A$AP Rocky Type Beats sur YouTube, ou même PNL qui a obtenu l'instru de Simba pour $40 auprès d'un inconnu total aux États-Unis. Comment s'en sortir dans cette jungle des instruments en ligne, des Type Beats? Comment dénicher aussi les bons beatmakers avec lesquels travailler? Comment trouver une bonne alchimie avec son producteur? C'est ce qu'on va essayer de se demander dans cet épisode. Comme toujours, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de deux invités de marque. Tout d'abord, Hugo, plus connu sous le pseudonyme Majeur Mineur. Tu es beatmaker, tu as beaucoup travaillé avec le rappeur Lord Esperanza notamment. Tu as aussi coproduit, je crois, le morceau Bécane de Lumpal. Tu me diras si je me trompe. Et tu es la moitié du duo Itsama. J'espère que je prononce bien. Hugo, merci d'être là. Comment ça va?
Salut, bah très bien, belle présentation, merci, très heureux d'être là.
Mais il paraît qu'Itsama est le plus juteux duo de l'année prochaine d'après ta bio Insta.
Eh ouais, exactement, et c'est même pas moi qui le dis, c'est ma mère, donc attention, putain.
On respecte totalement la parole maternelle.
Ouais, c'est grand.
Face à toi, un autre artiste, rappeur en anglais, si je me trompe pas.
Yes.
Également producteur, on va en parler, c'est Calvin Davey. Hello Calvin, comment tu vas?
Enchanté, bah écoute, ça va, ça va.
Parle très proche du micro.
Très honoré d'être ici.
Mais c'est un grand plaisir pour nous aussi. Tu feras un live à la fin de l'émission.
Exactement.
C'est la tradition. Mais je nous propose déjà un petit extrait de ton univers. Ça s'appelle Niagara Fall. C'est dispo partout, mais notamment sur YouTube et sur toutes les plateformes en fait.
Yes.
Partout. Voilà, ça s'appelle Niagara Fall. Écoutez ça.
Can't take no more. My drip Niagara Falls, zooming on me with the scope. Bitch, I'm Neo with the Dodge. Untouchable, yeah, I see a lot of flaws in you, but can't save a hope.
Et bien maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans le vif du sujet. Je commence avec toi, Calvin, justement. Comment toi t'as trouvé les premiers beatmakers avec lesquels t'as travaillé? Est-ce que ça a été une difficulté de rentrer en contact avec des gens?
Bah écoute, en fait, moi j'avais commencé dans un groupe de rap. Donc au début, bah on utilisait un peu des instrus aléatoires sur internet, bah, comme t'as pu dire au début de l'émission. Et bah au fur et à mesure, on avait envie d'avoir notre propre instrus, notre propre matériel et enfin sortir nos propres musiques 100% originales. Et au début, on avait commencé à recevoir un peu des messages de différents beatmakers. Et notamment d'ailleurs un des premiers beatmakers avec qui j'ai travaillé, qui est Majeur Mineur en face
c'est
de moi.
C'est fou, j'ai vu ça en préparant.
C'est grandiose.
Ouais, c'est ouf qu'on se retrouve ici.
Ouais. Ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vu et on a vu.
Et
dans
vous aimez pas en plus. Vous
non,
aimez pas
bah
du
non,
tout.
Pas du tout. On n'a jamais bossé ensemble. Ouais. Et tout, ça, tu vois, donc.
Exactement. Et du coup, ouais, bah au début c'était un peu des gens qui nous envoyaient des prods et après au bout d'un certain temps, enfin il y avait aussi le fait de chercher un type de son. Quand t'écoutes des morceaux, tu sais quelles inspirations te font kiffer, quel genre de mélodie te plaise, et donc tu vas t'approcher bah, sans doute des beatmakers qui font plutôt des instrus comme ça, dans lequel parce que
tu te retrouves, ouais.
Oui, voilà. Enfin, au final, la patte artistique est quand même bien définie, je trouve, sur les instrus aussi. Donc voilà, et au bout d'un certain temps, bah, j'ai décidé que j'allais faire mes propres prods parce que.
Mais pourquoi justement? Est-ce que c'était pas par dépit entre guillemets, genre parce que tu trouvais pas les bonnes couleurs qui te convenaient ou?
Non, en vrai, il y a trop de beatmakers trop chaud, enfin j'ai beaucoup bossé avec beaucoup de gens et non, c'était vraiment juste pour avoir mon propre ma propre patte en fait à 100% et vraiment savoir ce que je veux faire de A à Z et mais après ça m'empêche pas aujourd'hui de continuer à collaborer avec d'autres beatmakers. Je pense que la majorité de mes prods que je vais sortir maintenant se font prod par moi, mais j'ai d'autres morceaux avec d'autres gens qui sont amenés à venir bientôt.
Hugo, Majeur Mineur, yes. Comment toi t'as commencé dans le beatmaking et comment surtout se sont faites tes premières collaborations avec des rappeurs?
Bah moi, il y a un avant et un après SoundCloud. Hein. SoundCloud, pour moi, c'est l'utopie, l'une des plus belles utopies de la musique. Hein. C'est tout était possible, tout était permis. N'importe qui, n'importe où pouvait mettre une flush à Timbaland dans son studio. Et ça, c'était assez exceptionnel. En fait, s'il n'y avait pas eu SoundCloud, je pense que moi, en tout cas, je ne ferais pas de musique. En tout cas, je ne la ferais pas du tout de la manière dont je la fais aujourd'hui. Je pense que Calvin dira la même chose. Hein. Et la plupart des gros producteurs du moment, d'ailleurs, sortent de cette scène-là. Hein. On peut en citer des dizaines. Stu, qui est produit pour Frank Ocean, pour Drake depuis. Faz, qui fait Cobaladé, Niska, Aurel San sur la tournée et tout. Tous ces mecs-là, ils viennent de SoundCloud. Ça a influencé tout, ça a tout changé. Et ça a permis, en fait, aussi de se rencontrer juste pour la musique. Parce qu'il y avait ce truc assez magnifique avec ce réseau social où il n'y avait que la musique qui parlait. T'avais une photo de profil, c'est tout, il y avait rien d'autre en fait. Et du coup, tu t'échangeais des messages, t'échangeais des trucs, et c'était juste basé sur un feeling vraiment musical. Et tout est né de là en fait. Et notre rencontre, après par exemple, justement, moi au tout début, bah, l'un des premiers artistes avec qui j'ai bossé, c'est justement Calvin et Calvin Davy et tout son entourage, son groupe et tout ça. Donc c'était vraiment très enrichissant, et les premiers morceaux qu'on a sortis, on les a complètement sortis sur SoundCloud, parce que c'était le moyen le plus libre, le plus rapide, le plus fluide, le plus cohérent avec ce qu'on faisait, ce qu'on écoutait. Donc il y avait vraiment eu cette époque en fait où tout a démarré avec ça, et je pense que on parle à notre échelle, mais on peut prendre ça à une échelle tellement plus grande. XXXTentacion ou Post Malone sont connus grâce à SoundCloud, tu vois. Donc il y a vraiment, je pense, un avant et un après, et ça a un peu tout changé dans la manière dont on consomme, on écoute et même on s'approprie la musique aujourd'hui.
Alors, imaginons justement que je sois là un jeune rappeur, ce qui n'est pas le cas, mais j'écris des textes,
etc. Tu vas nous lâcher ton meilleur 16,
bien sûr, évidemment. La première solution pour moi, si je connais pas de beatmaker dans mon entourage et tout, ça peut être justement du coup de poser sur des instrus que je trouve en ligne, sur Internet. Donc,
bah, entre SoundCloud, je dirais maintenant, il y a YouTube aussi. YouTube, ouais. c'est forcément exceptionnel. Et en fait, la meilleure chose pour vraiment démarrer, c'est tu tapes le nom d'un artiste qui t'inspire, suivi de Thai Beat entre guillemets. Mais où tu veux, hein. Si t'es un OG, tu fais ça sur MySpace, sinon tu fais ça sur SoundCloud, sinon tu fais ça sur YouTube, tu vois. Et tu digues un peu et tu vas chercher vraiment ce qui te plaît. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a une offre pléthorique. Enfin, c'est assez hallucinant le nombre de productions que tu trouves. Tu vois, tu parlais des ASAP Rocky Type Beat par exemple. Il y a des ASAP Rocky Type Beat qui sont plus chauds que les plus grosses shows, les prods les plus chauds d'ASAP Rocky. Enfin, tu vois, c'est assez exceptionnel. Il y a des mecs qui arrivent à tout faire et tu peux trouver des prods exceptionnels. Et après, il suffit juste, comme pour tout, d'envoyer un message au gars si ça te plaît. Faut juste, en fait, comme pour tout, faire un peu de veille, un peu de recherche, aller diguer un peu personnellement, savoir ce que t'as envie d'aller chercher. Donc, fonctionner par mots-clés. Finalement, c'est un procédé qui est assez intuitif et faut vraiment chercher à répondre à son instinct. Je pense qu'il faut pas chercher à surréfléchir la chose, à dire je voudrais un truc comme ça, double prod, démarrer comme Travis Scott. Essaye d'aller à l'essentiel, vraiment au plus simple, la chose qui te fait vibrer, les choses qui t'inspirent. Réponds à ça et il y aura une offre immense qui répondra, c'est sûr.
Grave, je me permets d'ajouter un petit truc aussi. Malheureusement, à cause des Type Beat aussi, t'as plusieurs rappeurs qui achètent les mêmes prods. Ouais. Et t'as deux sons qui percent avec la même prod.
Bah justement, ouais, parlons-en.
Les fans sont
ça.
Un peu perdus, quoi. Enfin,
comment là, c'était très juste ce que t'as dit, Hugo, sur voilà, il y a ces plateformes-là. Je mets des mots-clés, mes envies, etc. Et je vais trouver des trucs.
Ça, c'est pour aller le chercher.
Voilà. Mais une
après,
fois que tu l'as trouvé,
c'est oui, c'est ouais. Ça. Voilà.
Une fois que tu l'as trouvé, comment ça fonctionne justement?
Tu veux
ouais, je pense que ça dépend. Enfin,
ouais, ouais en gros, bah,
je pense que ça dépend. Il y a des beat stores. Il y a des gens qui créent des sites internet avec des licences à différents degrés. Donc des licences où tu vas payer la prod 50 balles et tu vas l'utiliser, mais tu n'auras jamais les droits dessus, donc tu pourras que la mettre sur SoundCloud et YouTube. D'autres mecs qui les mettent à 100 balles et tu as des droits, mais ils peuvent quand même la filer à d'autres mecs et après 300 balles pour avoir l'exclu. Ou alors, ça c'est très internet et très américain, je pense, ou alors juste de la collab.
Ouais, c'est ça. En fait, souvent, c'est des échelons, en fait. C'est-à-dire que, généralement, il y a des grilles tarifaires de ce qui se fait. C'est-à-dire que pour X euros, aux alentours de 50 euros, tu peux avoir le droit de t'approprier la prod, mais pas forcément l'utiliser commercialement. Ouais. T'as le stade au-dessus d'une centaine d'euros, où là, tu peux commencer à professionnaliser la démarche en studio. C'est-à-dire que, justement, tu peux avoir la production peut-être en stems ou en format wave, qui te permet de travailler la chose de manière plus poussée.
Wave, mais c'est mieux que MP3 pour les...
Ouais, pardon. Ouais, t'as raison. C'est ça, c'est le... Je sais pas, c'est le grand frère du MP3, quoi.
C'est le Raichu, un peu de... Allez, on se permet. T'as cité MySpace, je cite Pokémon.
T'as raison, c'est le Gotrunk du MP3. Et en fait, il y a ce truc où du coup, ça te permet d'accéder à ce stade-là. Et après, le stade au-dessus, c'est celui où t'as justement tout ce professionnalisme studio. Et en plus, t'as les droits sur le morceau.
Ouais, donc c'est
là,
très important.
Voilà, c'est là où on arrive justement à ce truc-là où si jamais, par exemple, tu es convaincu que le morceau que t'avais sur ce morceau-là, il est assez fort, il est unique, que t'as justement pas envie que quelqu'un d'autre fasse exactement comme ce que disait Calvin, voilà, qui est cette embûche entre guillemets avec quelqu'un d'autre qui fasse un morceau que sur la même prod, tu peux acheter les droits exclusifs de cette prod là. Forcément, acheter les droits exclusifs, ça veut dire que tu participes et tu rentres dans la boucle des droits d'auteur et tout ça. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est vraiment cadré administrativement et juridiquement, qui souvent en plus se fait de manière transversale en fonction des pays, c'est-à-dire qu'à travers les plateformes dont Calvin parlait, type Beatsart et tout ça, tu peux être en France et acheter des prods à un mec aux États-Unis, la juridiction et la loi sont pas la même. Donc il y a beaucoup d'organismes et de plateformes qui te permettent de vraiment, entre guillemets, faire cette passerelle de manière assez exceptionnelle. Par exemple, en reprenant cet exemple de plateforme Beatstart, mais il y en a plein d'autres.
On peut peut-être les citer. Moi, j'en ai noté quelques-unes. Je sais pas si vous avez des rêves ou celles que vous préférez.
Je pense que
tu auras
plus de.
J'ai noté Sanjin, qui permet de notamment créer son propre site pour vendre des instrus aussi. Il y a Allbeats, qui est une plateforme française, mais qui permet quand même d'être en échange avec d'autres nationalités. Il y a Tracktrain. Alors là, ça se fait sur invitation, apparemment. Tout le monde peut acheter, mais pas tout le monde peut vendre, en gros. Faut être coopté, d'une certaine manière. Beatstart et Airbeats. Mais Beat. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais noté. Je sais pas si vous en utilisez, vous.
On les embrasse.
SOAE. Non, mais je sais pas s'il y en a que vous recommandez. Non, toutes.
J'achète pas. Enfin, je recommanderais pas trop d'acheter d'instru perso, mais.
C'est
comme ça, en tout cas.
Ouais, il faut se l'approprier, en fait. C'est comme pour tout, tu vois. Est-ce que t'écoutes sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music? Finalement, c'est lequel est le plus fluide, lequel correspond à ta manière d'appréhender la musique. Je pense que pour ces choses-là, c'est pareil, tu vois. Ça répond à la première chose qui est, si jamais tu veux vraiment un peu professionnaliser cette démarche, faut forcément faire un peu de veille. Et la veille, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande d'aller voir ce qui se fait, d'aller étudier la concurrence. Donc ça, c'est un procédé.
C'est perso,
perso, que chacun doit faire, c'est son chemin, quoi.
Tu parlais des droits là tout à l'heure sur quand on achète vraiment le morceau. Est-ce que c'est compliqué là de s'intéresser à ça et de capter les droits qu'on a sur tel et tel truc une fois qu'on l'a acheté, ou ça se fait assez simplement? Même tu parlais de la législation entre les différents pays.
En soi, de base, si tu veux vraiment rentrer dans le droit, ouais, c'est très complexe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'en appellent des avocats spécialisés là-dedans, qui font des années d'études pour t'épauler là-dedans. Mais l'avantage, c'est que ces plateformes-là, elles te permettent de vraiment, entre guillemets, faire ce travail-là pour toi. Elles te le prémâchent, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment, des contrats types. Et toi, si tu réponds à telle offre, eh ben, tu répondras à tel type de contrat. Et toutes les choses, en fait, sont déjà prémâchées pour toi.
Voilà, c'est pour ça que Panda, du coup, lui a coûté que 200 balles et que c'était fini, en fait. Bon, après, j'imagine qu'il a pu renégocier un truc, ou un deal avec eux, mais bon, au début, enfin, c'était quand même un peu, t'as payé 200 balles. Sur ton site, il y a écrit 200 balles, c'est les droits exclusifs, c'est ma prod, etc. Enfin, voilà, quoi.
C'est le jeu aussi. C'est que d'un autre côté, s'il veut se faire de l'argent, il se fait de l'argent.
Et puis,
le mec
achète 200 balles à ce moment-là et c'était énorme.
C'est la loterie.
Voilà, c'est ça, tu vois. Et puis, qu'est-ce qui te dit que ce mec-là va faire un hit là-dessus alors que ça se trouve, les 500 avant, tu vois, c'est ça.
Qu'est-ce que serait Panda sans les
Très bien fait.
Très, très bien fait.
Mais donc, ça veut dire, parce que ça, c'est progressif. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a acheté la prod, par contre, ça y est, on ne doit plus forcément de royalties une fois si le titre fonctionne.
Si tu prends ce type de licence, la licence ultime, quoi, la golden licence, tu vois. Donc qui te permet justement d'avoir
les pistes, les.
C'est ça, de t'approprier entre guillemets les droits. En fait, t'achètes avec ça les droits d'auteur entre guillemets, tu vois.
Donc, c'est vraiment illimité.
C'est ça.
Et là, on est quoi, plusieurs centaines d'euros à peu près en standard,
entre 300 et plus, quoi.
Il y a des gens, je dirais les tarifs d'entrée, c'est quoi, c'est 150 pour ces trucs-là, et ça peut monter jusqu'à très haut, ouais.
La prod, par exemple, si je l'achète, etc., et que moi je veux la ralentir, par exemple, ou rajouter des trucs dessus, j'ai le droit ça aussi.
Si t'as la licence qui le permet, oui. Ouais. Après, sinon, il faut demander l'autorisation au beatmaker, du coup, qui a créé le truc original. Faut toujours aussi, alors, si vous achetez des instrus sur Internet, s'assurer qu'il n'y ait pas de sample, parce que y a des petits filous qui samplent des trucs, qui les vendent 300 balles sur Internet.
Et de sample libre de droit, voilà, bien sûr.
Comment on sait ça? Et toi, tu te retrouves avec une flûte qui est en fait le solo à la fin du son de Michael Jackson.
Gaye, oui, voilà, c'est l'enfer.
Ça. Et du coup, tu te retrouves baisé quand tu le sors, tu savais même pas. Et...
Après, ça, le truc, c'est que ça retombera pas sur toi. Parce ça que juridiquement, t'es couvert parce que c'est le gars qui a fait l'erreur, en fait. Et il aurait dû.
Alors, si, ça, c'est que si tu l'as signé un truc qui l'assurait qu'il n'y avait pas de sample à l'intérieur.
Ouais, mais justement, les plateformes type Beatstart et tout ça, elles te promettent, entre guillemets, de faire valoir cette chose-là. Et du coup, si la personne a signé et qu'il a menti en signant, forcément, ça retombe sur lui.
En espérant qu'il n'avait pas un VPN en créant son site internet.
Ouais, après, bon.
Ah, non, mais c'est bien. Non, mais c'est tous les trucs auxquels il faut être attentif.
C'est sûr, c'est sûr. Après, tu me diras, tu vois, c'est pareil. C'est que là, du coup, dans ce cas-là, tu tombes sur une arnaque. Tu vois, t'as autant de chances de tomber là-dessus que de faire pickpocketer dans le métro, quoi. Tu vois, genre, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. L'avantage, c'est que ces plateformes-là, elles sont quand même assez étanches à toutes ces malversations qui leur sont forcément déjà arrivées à un moment ou l'autre. Et du coup, elles deviennent résilientes et elles avancent là-dessus. Après, très honnêtement, moi, j'ai jamais été confronté personnellement à ça, donc toi, j'ai pas de jurisprudence perso.
T'as vendu toi des instrus comme ça sur ces plateformes?
Okay. Ouais, ça marche bien. Et c'est cool, hein. Franchement, ça marche bien. Et en fait, le truc, c'est que tu vois, ça se connecte avec pas mal de services. Même par exemple, pour les instances bancaires, tu peux relier ça à PayPal et tout pour sécuriser un peu toute la procédure et la transaction. Et en fait, c'est extrêmement fluide parce qu'une fois que t'as mis ton catalogue en ligne et que t'as travaillé ça, la seule chose qui reste à faire, c'est en faire la promotion. C'est un peu comme défendre un projet, quoi. Et ça, c'est assez cool parce que ça permet aussi à chacun de mettre ce qu'il veut, de le mettre comment il l'entend, d'aller le promotionner de la manière dont il veut. Donc là, je parle vraiment de l'autre côté. Quand t'es beatmaker et que tu décides de vendre un peu ça, je pense que pour beaucoup de personnes qui cherchent à justement faire un petit peu d'argent avec leur production, des gens qui sont très productifs, qui font beaucoup de morceaux, c'est un super moyen de faire ça. Après, vu qu'il y a énormément de gens qui postent leurs instrus, il faut avoir sa valeur ajoutée, il faut trouver la manière de se démarquer. Et là, bah, c'est aussi un peu savoir se vendre, savoir créer sa différence, comme un projet artistique.
Oui, grave. Parfois, tu tombes sur des instrus personne n'a jamais fait, mais elles ont 170 vues, quoi. T'es là,
ouais, c'est ça.
Parce que c'est pareil, quoi.
Il faut savoir marketer un petit peu ton truc. Forcément, comme pour tout, si tu veux en faire un petit business et que tu veux avoir un peu de retour monétaire et que t'as été dans une logique mercantile, bah, il faut raisonner comme ça, quoi.
Et t'as des conseils ou vous avez des conseils là-dessus sur comment un peu se marketer sur ce type de plateforme?
C'est vachement propre à chacun. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille, c'est d'aller cibler les populations directement. C'est-à-dire, si toi, t'es assez actif sur Instagram, que tu mets tes trucs sur Instagram et qu'en plus tu les mets sur une plateforme, va faire de la promotion ciblée en allant cibler tel type de personnes qui, correspond vraiment à ça. Tu vois, limite, en allant cibler les publics, des pages qui vont liker des trucs de rap. Enfin, en fait, c'est assez intuitif, encore une fois. C'est vraiment répondre au public que t'as envie d'aller chercher. Et après, c'est une technique un peu d'entonnoir. Après, très honnêtement, c'est pas pareil, c'est pas mon champ de compétences pure et dure. C'est-à-dire que moi, je suis plus derrière l'ordi, je mets la prod sur Internet et j'ai la chance d'avoir déjà un petit peu de retour de par mes actions passées qui fait que j'ai une petite communauté qui fait circuler la chose. Donc moi, j'ai la chance inouïe de me permettre de même pas faire de promo pour que ça marche un peu, quoi. Donc, je pourrais pas être le mieux placé pour répondre à ça.
Mais globalement, on peut quand même... générer un petit peu d'argent grâce à ces plateformes-là.
Il y a des gens qui en vivent, Il y a des gens qui en vivent. Et oui, et d'ailleurs, pour préciser, parce que ça peut être très utile, il y a aussi beaucoup de grands beatmakers qui expliquent comment eux, ils font pour justement vendre leurs trucs, et expliquent leurs démarches, expliquent leurs procédés, qui font même des contests et tout, parfois, de prod pour mettre en avant des beatmakers, mettre des choses comme ça. Donc, je sais qu'il y a Kenny Beats ou Timbaland qui font ça, qui sont des immenses producteurs américains, mais à l'inverse aussi, des mecs justement qui viennent de la scène SoundCloud. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle Decap, D-E-C-A-P, qui fait des sample packs géniaux, qui vend des prods, qui fait des trucs super, qui est ultra actif sur YouTube, qui fait plein de trucs comme ça, et qui est tout le temps dans une démarche d'essayer de responsabiliser tout le monde et de montrer comment lui il fait. Et c'est un mec qui a une dizaine de sample packs sortis sur Splice, a des disques d'or et des disques d'or, a fait plein de trucs, donc est ultra versatile, est capable de faire plein de choses et explique de manière très didactique tous ses procédés en fait de création et ses procédés de vente, parce qu'il a vraiment cette valeur ajoutée un peu de ricain, quoi. Il a ce business game en lui, quoi.
T'as cité Splice, je voulais justement en parler parce que au-delà de l'achat d'instru terminé, il y a aussi visiblement, ça fonctionne beaucoup, l'achat de boucles, en fait, de loops, de différents types ou de différents instruments et tout. Et apparemment, ça fonctionne aussi beaucoup et c'est très à la mode d'aller chercher telle ou telle boucle, même de grands producteurs qui postent leurs trucs. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez
Bah ouais, moi ça m'arrive de temps en temps, je sais pas, si je trouve un sample cool, même si c'est un truc un peu cramé. En fait, vu que j'ai ma méthode de sampler qui est un peu propre à moi, j'ai pas trop de chance de retrouver un mec qui a la même prod plus ou moins, qui aura fait les mêmes drums et tout, donc je m'inquiète pas trop. Après, faut faire gaffe parce que justement, il y a beaucoup de gens, je pense, qui disent « Oh bah, putain, super cette flûte !» qui la foutent sur leur logiciel au même BPM et qui mettent juste des drums qui slapent.
Ouais.
Bon, là je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Après, c'est mon avis.
C'est un outil en fait. C'est un outil comme pour tout. L'outil, tu peux l'utiliser pour la manière brute pour laquelle elle est présente et tu peux en faire de la folie quoi. Donc c'est vraiment chacun se l'approprie. C'est un outil. C'est vrai que c'est un super outil parce que c'est une base de données, une banque de données qui est immense, qui est exceptionnelle.
De tout style quoi. Voilà, enfin, tu peux trouver des samples.
Moi par exemple, j'utilise beaucoup pour faire les trucs un peu cinématiques, tu vois. Moi qui n'ai pas forcément de connaissances dans la composition cinématique, quand je dois faire des choses qui sont un peu orchestrales et cinématiques. C'est vrai qu'il y a des banques de samples là-dessus qui sont assez exceptionnelles. Tu vois, des effets où parfois les logiciels pour écouter une blinde et tu n'as pas cet argent à mettre là-dedans ou tu n'as pas aussi le temps de forcément te poser à savoir comment créer cette chose-là. Donc pour préciser ces choses-là, c'est super. Et à l'inverse aussi, je pense que pour les gens qui démarrent ou même ceux qui ont des pannes d'inspiration, ça peut être un moyen d'aller chercher aussi un peu de créativité, un peu de différence. Et là où je rejoins Calvin, c'est qu'effectivement, il faut arriver au stade où il faut se l'approprier. Sinon, ta prod, elle n'aura aucune valeur ajoutée. Parce qu'en soi, si c'est juste une loupe sur laquelle tu mets des drums, bah, n'importe qui pourra faire la même chose, tu vois. Et justement, il y a eu des histoires comme ça aussi sur Splice. Là, dans le dernier album de Justin Bieber, il y a un producteur qui a composé donc un morceau dans l'album de Justin Bieber sur une loupe Splice. Et qu'il a justement à peine touché. Et Justin Bieber s'en est rendu compte parce que le mec, en gros, sur Twitter, a dit « Putain, c'est beau, grâce à Splice, j'ai placé Justin Bieber, mais vu que c'est grâce à Splice, en gros, j'ai aucun crédit, quoi. » Et Justin Bieber a demandé à mettre le gars au crédit par la viralité du truc. Ça. Donc, c'est parce que Justin Bieber a fait le truc que le gars est au crédit.
Bon, après, il sera au crédit, sans doute, juste cité, quoi.
Ouais, il est cité.
Il sera pas payé,
ouais,
je pense.
Ouais, peut-être. Mais bon, il a produit pour Justin Bieber, du coup. Tu vois, quand il y a le platine, il est éligible à recevoir le platine
dans sa chambre. Après, je ne pas ça non plus. Très, enfin, je suis plutôt contre prendre un loop et le louper et juste faire
c'était
des
c'était juste pour la jurisprudence de l'exemple, tu vois, de ce qu'on citait.
Mais après, je trouve pas ça non plus très grave. En vrai, si t'arrives à faire quand même un track de ouf, donc c'est-à-dire au-delà de l'instru, si t'as trouvé une mélodie avec ta voix qui change tout, bon, pourquoi pas, tu vois, mais bon.
Après, c'est vrai, c'est propre à chacun, quoi, aussi.
Ouais.
C'est...
Et Splice, ça s'écrit S-P-L-I-C-E, comme on est en audio, si vous voulez aller checker ça. Bon, une fois qu'on a fait le tour un peu de tout ce qu'on pouvait trouver en ligne, il y a aussi une autre étape dans le travail avec les beatmakers, c'est des compositions un peu plus sur mesure et un travail peut-être en binôme, carrément, entre l'artiste rappeur ou chanteur et le beatmaker. À partir de quel moment, imaginons que voilà, je suis toujours ce jeune rappeur indépendant, à quel moment c'est intéressant d'essayer d'aller chercher un travail un peu plus approfondi avec le beatmaker?
Je pense, comme je disais au début, c'est un peu, enfin, un artiste est un peu aussi défini beaucoup par ses instrus, en fait. Parce que, enfin, quand t'écoutes un morceau, bah, t'as clairement l'interprète et t'as aussi, bah, derrière tout ce qui va avec. Et donc, je pense que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un, enfin, si jamais tu n'es pas toi-même producteur, d'avoir quelqu'un avec qui tu t'identifies vachement, que ça soit par rapport à la musique, ou que ça soit humainement, finalement. Parce que bon, t'as des groupes qui naissent, parce qu'ils sont hyper potes humainement, et finalement, ça match du coup dans la musique aussi. Parfois l'inverse existe aussi, mais bon, bah, je pense qu'on a un beau duo qui existait avec Lord Esperanza et Major Mineur, qui se sont trouvés parfaitement finalement parce qu'ils ont fait.
C'était intéressant parce que moi ça m'a fait sortir de ma zone de confort, lui aussi. On s'est retrouvé sur des points et on a aussi cultivé une différence assez forte sur d'autres points. Et on a eu la chance de pouvoir en fait avoir une aventure où je pense que la chose principale qui nous reliait c'était la fin, l'ambition, l'envie. Et surtout la motivation sur le croisement un peu des genres, tu vois. Et moi, par exemple, j'étais passionné et extrêmement attiré par la qualité de sa plume et la qualité de sa maîtrise de la langue française. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait justement un peu me pousser plus dans mes retranchements, dans le sens où moi, je viens pas forcément de la production du rap. Je viens beaucoup plus du côté électronique de cette scène, justement, SoundCloud. Et je suis tombé dans le rap quand l'électronique a croisé un peu le rap. Et ce qui a fait d'ailleurs le renouveau du rap qu'on écoute maintenant aujourd'hui. Et vraiment, et du coup, c'était aussi toutes ces recherches, toutes ces choses-là. Et si on s'était arrêté juste à la musique pure, j'aurais peut-être pas fait ce que j'ai fait en fait avec Lord Esperanza. Parce que sur la musique pure et dure, c'est balade-toi dans mes playlists, en fait, c'est pas ce que j'écoute. Mais ça va au-delà de ça. Et justement, c'est là où je pense qu'il faut être vraiment ouvert d'esprit. Parce que la pire chose qui peut tuer ton projet, c'est ton propre ego, en fait. Et c'est les rencontres, elles créent forcément des choses magnifiques et des distances un peu plus difficiles. Mais parfois, c'est aussi ces distances un peu difficiles qui te poussent dans tes retranchements et qui te permettent d'aller chercher plus loin, d'aller chercher autre chose. Donc la collaboration, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, elle sera toujours bénéfique parce qu'elle te permettra de te comprendre mieux toi-même, comprendre mieux ta démarche artistique, comprendre mieux ta recherche artistique et ta recherche humaine. Donc moi, le seul conseil que je donnerais, c'est ouvrez-vous un maximum de collaboration pour vraiment en fait vous faire votre en fait entre guillemets ouais c'est votre propre histoire quoi, et savoir ce qui vous anime, ce vers quoi vous voulez aller et quels sont les types de matchs artistiques et humains selon lesquels vous vous tendez, et après les choses se feront de manière assez fluide en fait.
Kelvin, là-dessus, ton point de vue sur cette alchimie à avoir...
Je pense que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui tu collabores de manière récurrente et surtout enfin dans le dans ces positions-là, rappeur, beatmaker, je pense que c'est, enfin, tu te mets dans des bains, quoi. Je me souviens à l'époque quand on faisait des sessions, on se voyait, enfin, parfois genre plusieurs jours d'affilée, on se mettait dans notre bulle et on écoutait plein de prod et on se faisait plein de prod, parfois à deux, parfois juste lui et moi, j'écrivais en même temps. Et ouais, c'est ces moments-là qui te permettent de créer, même de créer un univers. Au final, on a sorti que un son de tout ce que son qu'on a fait ou deux sons, mais voilà, c'est toujours bien. Je pense que pour nous deux, ça avait, à ce moment-là, ça nous avait pas mal aidé. Et même aujourd'hui, bah maintenant que je fais mes propres prods, ça m'empêche pas du tout de collaborer avec d'autres beatmakers. Bah là, je suis en train de faire mon premier album et j'ai plein d'autres beatmakers dessus, donc je suis assez. Enfin voilà, je vais toujours chercher à droite, à gauche. Et en général, c'est les mêmes qui ont fait plusieurs prods dans mon album.
Alors c'est une question qui est à la fois vaste et compliquée, mais est-ce qu'il y a des endroits pour rencontrer des beatmakers? Si je suis un jeune artiste tout seul, peut-être pas à Paris, est-ce qu'il y a des plateformes, des trucs?
Comme il disait au début, je pense SoundCloud, enfin c'est Internet quoi en gros.
Ouais,
enfin,
ça
moi je pense que toutes les, Instagram, les premières SoundCloud, rencontres que j'avais fait avant d'avoir des proches qui fassent de la musique aussi, c'était Internet, c'était genre salut gros. Enfin, je sais pas comment on parlait à l'époque, mais.
Ouais, non mais non mais c'est ça, hein, c'est ça. Par exemple, moi j'ai remarqué la manière cette année dans laquelle j'ai découvert le plus de beatmakers inconnus que je trouve exceptionnellement fort, c'est en allant creuser les participants au concours de beatmaking fait par d'autres beatmakers. Par exemple, Easy Due, Dioscures, ou je te prenais cet exemple de Sriquin, Decap et tout, qui font de temps en temps sur leur Instagram des contests de beatmaking, tu vois, et vraiment n'importe qui peut aller participer à ça. Et j'essaye toujours d'avoir la curiosité d'à chaque fois qu'il y a un contest d'aller écouter tout ce que les gens proposent, tu vois, d'aller sur les profils des gars, d'aller voir, et tu vois. Et la plupart du temps, le mec qui a le plus d'abonnés qui participe au concours, il en a 3000, et c'est déjà immense quand t'es beatmaker de revendiquer que ça, d'avoir ça, et tu vois, et d'être dans ce truc là. Donc il vraiment tout le monde participe à ces trucs là et parfois il y a des gars qui sortent de nulle part et qui sont exceptionnellement forts. Et je pense que je serais jamais tombé sur eux si j'avais pas creusé ce chemin-là, tu vois. Donc c'est toujours ça, c'est que la personne, en même temps, je suis tombé sur elle parce qu'elle l'a provoqué. Donc c'est pareil, si toi tu veux aller chercher, entre guillemets, un beatmaker et que tu veux aller chercher une valeur ajoutée, bah il faut que tu la provoques. Donc provoquer ça, c'est aussi trouver ton chemin. C'est sûr que si tu tapes juste beatmaking intéressant sur Instagram, bah tu vois, faut cultiver la chose en fait. C'est comme pour tout, quoi. Tu veux un beau jardin, bah cultive-le, bah c'est pareil, hein.
Ça cite Voltaire, c'est beau. Justement, une fois qu'on a créé tout ce travail avec un beatmaker, qu'on avance sur des projets ensemble, il y a une question un peu pratique mais vitale, je pense, la question de la rémunération. Comment on travaille là-dessus? Parce que j'imagine que le travail en studio, bah, ça prend du temps, c'est difficilement quantifiable. Comment on rémunère un beatmaker? Quelles sont les fourchettes de prix même éventuellement? Et voilà, comment on quantifie ce travail-là?
Bah, je me permets de commencer. Moi, franchement, pour l'instant, moi, je suis en indépendant, donc j'ai pas de norme majeure qui surveille ce que je fais ou qui choisit mes collaborations, etc. Je sais pas trop comment ça marche dans ces cas-là. Je pense qu'il y a beaucoup de cachets qui sont faits quand c'est des labels, etc. Moi, je vais plutôt me tenir sur des droits d'auteur. Donc, en général, ça va être partager les droits d'auteur avec le producteur. Bon, ce sera pas 50-50 en général si c'est mon projet. Ce sera un peu moins, mais...
Genre quoi, genre
60-40, 70? Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas trop. Pour l'instant, j'en suis pas encore... Enfin, ça sera mon avocate qui fera tout ça quand je sortirai mon truc, mais ouais, je pense que c'est plutôt du 75-25. Et on parle des droits d'auteur. Et après, les droits de production, c'est autre chose. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de rémunérations différentes. Après lui, je pense qu'il a...
Bah, en fait, ce qui est génial quand t'es indé, c'est qu'effectivement, tu peux te permettre de moduler un peu la chose comme tu l'entends. Je pense que c'est la base, c'est d'avoir une discussion saine et sereine là-dessus, et il faut briser le tabou de l'argent, qui est un fléau qu'on a dans notre société en France, qui est absolument horrible de jamais vouloir parler.
Ça peut casser des histoires entières,
en fait. Il y a des gens qui montent des projets de dingue, et l'ego et l'argent, si vous arrivez à être plutôt serein avec ça et faire un peu la part des choses, c'est vraiment des choses qui vont vous sauver dans la vie et dans votre carrière.
Bon, après, moi, j'ai déjà rencontré des gens aussi, ils se foutaient un peu de ma gueule dans le deal, tu vois. Donc, je veux dire, il y a les deux. Je pense qu'il y a un ego minimum à avoir.
Ouais, bien sûr.
Et un ego. Bah,
bien sûr. Non, mais je dis dans le sens aussi de forcément aussi briser le tabou de l'argent, c'est quand la personne te fait quelque chose qui tu trouves ne pas être respectueux, c'est savoir lui exprimer librement pourquoi c'est pas respectueux et lui faire une contre-proposition qui est sourcée, tu vois.
Exactement. C'est ça, là rien où... de dire non et.
Voilà, c'est ça. Et forcément, c'est de l'échange et c'est de la négociation à ce rythme-là. Et je pense que le but, c'est de se mettre d'accord sur effectivement toutes ces choses-là. Par exemple, moi, sur les premiers albums avec Lord Esperanza. On avait décidé de faire 50-50 parce que en fait moi j'ai géré toute la partie à côté de production, c'est-à-dire que c'est moi qui faisais la comptabilité, la production, c'est moi qui faisais les clips, et donc vu que c'est lui qui faisait la démarche entre guillemets marketing, c'était lui le chef de file, mais que c'est moi qui faisais tout le travail de l'ombre, et ben on a quantifié que en plus du travail de purement rappeur et producteur, tout ce qu'on faisait autour pour nous permettre à notre projet de marcher, voilà, on a valorisé ça comme étant une moitié parfaite, une entité parfaite, et du coup on fait tout à 50-50. Avec Itzama, c'est exactement ce qu'on fait. Itzama, on a décidé que on voulait pas faire de compte d'apothicaire entre nous, que rentrer dans des histoires de pourcentage et tout ça, c'était de la mesquinerie. Et je sais pas si ça se dit comme ça, en tout cas être mesquin, je sais pas. Bref. Et du coup, on a décidé de faire un 50-50 sur absolument tout. Et c'est notre méthode de fonctionnement, c'est notre raisonnement et c'est notre levier d'action. Après, bien sûr, dès que, par exemple, je produis un grand morceau, tu vois, t'as cité Lompal, prenons cet exemple, qui est signé, à l'époque, il était pas dans une major, mais c'était quand même distribué, je crois, avec Idol. Et du coup, forcément, il y avait tout un cadre avec Grand Music Management qui gère tout ça. Là, c'est effectivement des contrats de session pour t'acheter tes prods. Puis après, t'as des pourcentages de droits d'auteur qui sont légitimes en fonction de ce que t'as, donc qui sont reliés à la SACEM. C'est les droits éditoriaux. Après, t'as tes droits master. Enfin, il y a plein de types de droits qui rentrent là-dedans, mais je pense que ça, c'est un état un peu plus complexe dans lequel, si jamais vous avez la chance, entre guillemets, de tomber dans ce truc-là, le mieux, c'est de faire appel à des gens qui s'y connaissent pour être aiguillés. Ouais. Parce que sinon, c'est sûr que...
Je pense que c'est très important.
Moi, je me suis fait baiser sur mes premiers contrats parce que j'ai pas demandé d'aide, en fait.
Je pense que c'est important d'avoir un background juridique. Bon, il est pas toujours facile à trouver, mais je pense que c'est important de s'entourer d'autres gens dans le milieu qui sont pas forcément que des artistes comme nous. Et justement, d'autres, des avocats, des managers, je sais pas, tu vois. Mais voilà, pour... aussi, il y a le truc de négociation. C'est vrai que quand tu vas voir, négocier toi en tant qu'artiste, c'est un peu chelou. Je le fais de temps en temps, mais c'est un peu, je sais pas, t'as l'impression que c'est pas ton travail, quoi. Genre, moi, je fais de la musique, je m'en fous, en fait. M'en fous pas forcément, mais je veux dire, c'est pas ce que je dois faire, quoi. Donc, je pense que c'est aussi intéressant pour tout artiste.
C'est le rôle du manager, ça, en fait.
Ouais, c'est ça, mais je pense que finalement, c'est un peu d'importance quand même. Enfin, on en parle pas assez. Finalement, je pense que c'est assez important.
Mais je pense que quand tu as vocation à avoir un projet artistique personnel, c'est important d'essayer de maîtriser un maximum de choses de ton environnement, savoir de quoi tu parles. C'est-à-dire que si jamais un jour tu as la chance d'avoir un manager qui fait ça et à qui tu peux déléguer ces tâches-là, c'est génial, c'est royal. Mais si en plus tu sais de quoi tu parles et tu sais ce que tu lui délègues, parce que justement tu t'es créé ta propre expérience, là en fait c'est vraiment bon parce que la peur, souvent, ça naît de l'ignorance. Et l'argent, ça peut faire beaucoup, ça peut faire très souvent peur parce que c'est extrêmement lié à cette ignorance. Et si en plus, t'as pas les tenants, les aboutissants et que tu te mets toi-même un flou sur tout ce qui est juridique, administratif autour de ça, c'est sûr que tu peux très vite, en fait, devenir quelqu'un d'un peu noir et un peu matrixé sur toutes ces discussions. Et ça peut être extrêmement contre-productif pour ton propre projet.
Il y a des gens, comme Space Ghost Purp qui s'est déconnecté de tous ses peers, alors que ce mec-là, c'est un mec qui avait créé toute une patte sonore, quoi. C'est un mec de Floride qui a été le papa de A$AP Rocky, quoi. Enfin, le grand frère, plutôt. Et voilà, aujourd'hui, qui s'est brouillé avec tous ces artistes, qui avaient le Ryder Clan, dont Denzel Curry faisait partie, par exemple, et qui est absolument plus du tout en contact avec eux. Et enfin, même, on a retrouvé paix à son âme, mais juste avant que Temptation meure, il y avait un son genre fuck Space Ghost Purp, et enfin tout le monde le détestait, ce mec, parce que il avait dû justement être hyper aigri sur toutes ses répartitions, et sur l'honneur, enfin sur le ce que lui devaient les gens en fait, mais au-delà de l'argent aussi, le respect, etc.
Et en fait, ce que dit Calvin, c'est enfermé, ouais, c'est ultra important parce qu'il faut comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans un monde où la musique et ton projet artistique, je dirais, c'est qu'un tiers de tout ce qui peut faire ton succès. Genre vraiment en fait, c'est-à-dire que fondamentalement, si dans tes relations humaines et ton entourage et tout ça c'est pourri, un jour ou l'autre,
ouais,
ça sera et ça va se déliter et en fait les façades vont s'effondrer, tu vois.
Ouais, et... après j'irai pas jusqu'à dire que c'est... Enfin, ça c'est mon avis, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est que
moi,
un tiers.
Ouais, moi pour l'instant je parle de vraiment de... Mais... Moi c'est vraiment un truc que auquel je me suis rendu compte quand je suis rentré dans les grandes maisons, dans les grandes institutions, que j'ai rencontré des gros artistes signés dans des très grosses maisons avec des très gros budgets, avec des très gros managers, placés sur des très grosses radios. En fait j'imaginais pas que c'était que la musique avait une part aussi infime dans tout cet environnement. Même parfois je dis un tiers, je suis gentil. Parfois c'est, si c'est 10% chez certaines personnes, c'est déjà énorme. Donc au stade d'indépendant, arriver au moins à conscientiser l'importance de tout ça dans l'impact de ta musique, c'est déjà important parce que ça permet aussi, et là je pense qu'Alvin dira aussi, ça permet aussi une émancipation. C'est-à-dire que t'es plus obligé de répondre à une doctrine parce que en fait t'as un peu apprivoisé le sujet et du coup tu sais un petit peu sur quel pied tu veux danser, quoi. Et ça c'est important aussi de forger sa propre histoire, son propre raisonnement en fait. Et forger son propre raisonnement, bah, ça demande de s'éduquer et ça demande forcément de faire un travail, de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller chercher des sujets qui sont pas les sujets de prédilection qu'on aimerait faire justement, mais qui sont nécessaires quand on est jeune artiste indépendant et qu'on a de l'ambition avec son projet indépendant, quoi.
C'est parfait parce que c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec ce podcast. Merci beaucoup, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Ça passe très vite, mais c'était une super conversation. Franchement, super riche, ouais, d'enseignements. Merci beaucoup à tous les deux parce que merci. C'était, je pense, j'espère, très instructif pour les auditeurs. Donc, Majeur Mineur Hugo et Calvin Davy, ce que j'ai prononcé comme une merde tout à l'heure.
C'est Davy. C'est en anglais.
Voilà. J'avais dit que j'étais pas très bon en anglais.
Pas de soucis.
On se quitte évidemment pas comme ça parce qu'on va laisser passer, on va laisser la place pardon au live, même si ça représente parfois qu'une petite partie de l'univers.
Ouais, mais c'est ce pourquoi on le fait. Donc il faut le mettre en premier. C'est ça le sens.
Voilà,
c'est ça le sens.
Exactement. Donc c'est Calvin qui va nous interpréter quel morceau ?
Alors en fait, à la base, je me suis dit que j'allais faire un de mes morceaux justement produit par moi, mais après je me suis dit comme le thème c'était un peu la production, j'aurais aimé faire un morceau avec Majeur Mineur, on n'avait pas assez récent pour que ça montre un peu notre niveau actuel. Donc je vais faire une exclue qui est un morceau que j'ai pas encore sorti, qui est avec un producteur qui s'appelle Camo, qui est un producteur français assez doué. Et voilà, petite surprise parce que je lui ai pas dit que je ferais ce morceau aujourd'hui. Donc
trop bien. Est-ce qu'il y a un titre à ce morceau ?
Pour l'instant, il s'appelle Ocean, mais je sais pas si ça sera son nom définitif. Voilà.
Très bien, très bien. Donc le live est filmé. Vous pourrez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux de Groover, sur YouTube, etc. Merci à eux, merci à Groover pour la confiance,
merci
Marguerite pour l'organisation, merci
yes.
au poste général de
beaucoup
nous accueillir.
Beaucoup d'amour sur Marguerite.
Oui. Merci au poste général de nous accueillir, de nous soutenir et de nous diffuser. Merci Vincent, je te vois. Nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Groover Tips. D'ici là, croyez en vous, surtout c'est le plus important. Ciao.
Yeah. Let's go. Shout out Groover. Shout out Majeur Mineur. Shout out Camo. Let's go. Yeah. Yeah. How about we go and hit the coast? How about we never see the snoop? How about you never need a goop? Let's live for real, no reality shows. Ay, ay, yeah, only good intentions, huh? Not me for intention, everybody's humble with you when you act pretentious, huh? Welcome to beginners, yeah. Pass by to have dinner. Oh, it's all about the team. Only way to become winners, ay. The Phantom is cabriolet, ay. Don't forget to bring some spray, ay. No need for sands, these beautiful lands are perfect for our sweet escape, yeah. Oh, yeah, in and out the booth. I'm sipping gin, I'm feeling it, feel innocent to rose. Ayy, we stopping the cop, it's a smoke. Ayy, dropping the top on the low. Ayy, don't have a wallet, nothing in my pockets. I'm rocking a bathing suit. Ayy, girl, let's dive and watch the stars. Sexy with nothing on, and this our time. Nah, I'm not tired, so let's get it on. Whoa, cause she might be the only one that eyes can see. Where are you sure you want to leave? Yeah, one more time. Whoa, cause she might be the only one. cette émission, pour cette invitation. Bless up.
Ce fut un plaisir.
Calvin, baby.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.